Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débats et de décryptage. Notre invité ce soir à 18h20, il publie un ouvrage remarqué sur notre rapport au sacré et à l'islam. L'écrivain et membre de l'Académie française Jean-Marie Roire sera avec nous pour nous parler de son livre intitulé « Ce pays des hommes sans Dieu ». C'est un essai sur le face-à-face entre une société française déchristianisée et un islam conquérant. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. Le gouvernement annonce des peines plus lourdes pour les agresseurs des forces de l'ordre. Alors, suffisant ou non pour calmer la colère des policiers, on en parlera. 19h15, la carte blanche de l'entrepreneur Philippe Manière. Et puis à 19h20, dans le Club des idées, on évoquera la tentation du clown. C'est la thèse d'un livre politique, un candidat hors système qui pourrait bouleverser l'élection présidentielle. Ça fait écho à ce qui se passe ailleurs dans le monde, on en parlera. Alors faut-il y voir la victoire d'un ultra-populisme ? On en débattra avec nos invités. Voilà pour le programme. D'abord, c'est le journal Toute l'info avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
Aujourd'hui, sa famille, ses amis le pleurent et toute la police nationale avec eux. Comme vous tous, face au pire, il donnait le meilleur.
La République a des obligations envers ses policiers. Jean Castex salue la mémoire d'Éric Masson à Avignon. Hommage national cet après-midi.
Une chasse à l'homme est en cours dans les Cévennes pour retrouver l'auteur d'un double homicide dans une scierie du Gard. Il était en conflit, a priori, avec son employeur.
La perpétuité requise contre Nordal Lelandais, jugé pour la mort du caporal noyé. Les jurés sont en train en ce moment de délibérer.
Les jeunes aussi veulent se faire vacciner. Depuis ce matin, des créneaux sont ouverts pour tous les adultes. Et on verra que certains n'ont pas attendu.
La photo d'une femme voilée candidate LREM au départemental crée des remous au sein de la majorité. Le délégué général du parti menace de lui retirer l'investiture.
Du football, Didier Deschamps pourrait s'en mordre les doigts. La France vient peut-être de passer à côté d'un talent.
Et oui, l'Espagne vient en effet de naturaliser Emeric Laporte, le défenseur de Manchester City. Et puis la Bourse de Paris a terminé ce soir en net recul de 1,86% à 6 257 points.
La météo, Anissa Haddadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Bon, ça se calme un peu demain.
Un petit peu. La matinée en tout cas va se dérouler sous le soleil avec des conditions plus calmes et plus agréables qu'aujourd'hui. Dans l'après-midi, attention, c'est là qu'arrive la mauvaise nouvelle. Une nouvelle perturbation arrive par l'ouest à la porte des pluies, des orages et du vent. D'ailleurs, prudence dans le sud. Actuellement, les Bouches-du-Rhône et le Gard sont placés en vigilance orange crue inondation.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La ville d'Avignon s'est figée cet après-midi à l'occasion de l'hommage national au policier Éric Masson, tué la semaine dernière alors qu'il intervenait sur un point de trafic de drogue.
Émotion et solennité évidemment avec la présence du chef du gouvernement et de plusieurs de ses ministres. Un hommage sobre, digne, auquel vous avez assisté Stéphane Frangy.
Oui, une cérémonie bercée par cet air traditionnel irlandais, un portrait d'Éric Masson souriant et déposé par ses frères d'armes avant des prises de parole, dont celle de sa sœur Fanny.
Éric, notre fils, notre frère, notre amour, notre papa, notre ami. Chacun qui te connaît sait que tu es une belle personne. Seul le temps pourra nous aider à apprivoiser la douleur et tu seras présent en chaque saison au cœur de cette nature que tu aimais tant.
Puis c'est au tour de Jean Castex d'honorer la mémoire du brigadier tué en intervention.
Il n'ira plus le dimanche pêcher dans l'Ouvèze. Il n'ira plus s'entraîner au marathon. Il ne conduira plus ses deux filles à l'école comme il aimait à le faire lorsque ses horaires de travail le lui permettaient. Aujourd'hui, sa famille, ses amis le pleurent, et toute la police nationale avec eux. Comme vous tous, face au pire, il donnait le meilleur.
Éric Masson est promu au rang de commandant de police et fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. Le Premier ministre, qui exprime ensuite son soutien, formule des promesses à toute une profession aujourd'hui endeuillée, avant de conclure sur une citation d'André Malraux. Le tombeau des héros et le cœur des vivants.
Stéphane Frangy à Avignon pour Europe 1.
Et du côté de l'enquête, le tireur présumé et son complice sont présentés à un juge actuellement en vue de leur mise en examen. Depuis ce matin, un homme est activement recherché dans le Gard. Il a tué le patron et un employé de la scierie dans laquelle il travaillait.
Oui, avant de prendre la fuite dans la forêt lourdement armée, il était apparemment en conflit avec son employeur pour une question d'horaire de travail.
Un homme potentiellement dangereux, il a des tendances paranoïaques d'après le procureur, inscrit dans un club de tir de la région, connu dans son village, village qui depuis ce matin est complètement calfeutré. Personne ne peut entrer ni sortir. 200 militaires participent actuellement à cette chasse à l'homme. Romain Noquet vient de joindre Alain, voisin de la Syrie où a eu lieu donc le drame et où travaillait le fugitif.
C'est pas quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de nerveux, impulsif. Voilà. Quand il a été embauché à la mairie, ça se passait pas très bien. Un jeune un peu, je sais pas, pas bien dans ses baskets. Voilà. Donc le patron avait décidé d'embaucher ce jeune parce qu'il ne trouve pas beaucoup de main-d'œuvre ici. Il prenait un peu les jeunes qui restaient là, quoi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, ça n'a pas bien fonctionné entre eux. Et c'est indifférent avec le patron, voilà. Et il y a un autre jeune homme du village là qui travaillait aussi avec. Il lui dit « mais tu ne vas pas me tuer, quoi ». Et puis il est parti en courant. Alors on a des forêts de chênes verts, c'est très dense. Quelqu'un sous un chêne vert… C'est impossible de le voir. Hein. Lui, apparemment, il était aussi un peu du secteur. Donc, s'il connaît bien les montagnes, ouais, j'espère qu'on va le choper avant ce soir. Hein, parce que nous, ça nous fait peur de dormir là, sachant que quelqu'un rôde autour de nous avec une arme. J'espère qu'il n'y aura pas plus de drames que ça. Hein, parce que c'est bon, hein, deux, ça suffit largement. Hein.
Un voisin de la Syrie du village des Plantiers dans le Gard, joint pour Europe 1 par Roman Hockey.
Le verdict attendu ce soir au procès de Nordal Lelandais, jugé devant les assises de Chambéry pour la mort du caporal Arthur Noyer.
Ce matin, l'avocat général a requis la peine maximale, 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers. Cet après-midi, la parole était à la défense et Marion Dubreuil, Nordal Lelandais, a présenté une dernière fois ses excuses à la famille d'Arthur Noyer.
Oui, pour la dernière fois, Nordal Lelandais a répété qu'il n'avait jamais voulu la mort d'Arthur Noyer. Jamais, jamais. Son avocat a cherché à démonter point par point l'accusation qui retient l'intention de tuer. Exit le mobile sexuel. Nordal Lelandais avait deux partenaires à l'époque, une femme, un homme, disponibles à toute heure du jour et de la nuit. Les coups de poing mortels, quand on veut tuer, on ne frappe pas au visage, affirme Maître Jakubowicz. La dissimulation du corps. L'accusé a juste cherché à s'en débarrasser. Quant à l'extrême vulnérabilité du caporal Noyer. On parle d'un militaire de 23 ans, dans la force de l'âge. Il n'est peut-être pas bagarreur, mais il sait se défendre. Alain Jakubowicz a admis les incohérences, les mensonges de son client, mais ça n'en fait pas un meurtrier, ni un monstre, a asséné l'avocat, qui s'est exprimé devant les médias pour la première fois.
Quel que soit le verdict qui sera rendu, je veux rendre grâce à notre justice, à cette justice qui sait prendre le temps d'analyser les choses, d'analyser les âmes parfois, rendre hommage aux magistrats professionnels, aux jurés auxquels nous, avocats, sommes tant attachés.
L'enjeu pour les jurés, vous l'avez compris, ce n'est pas de dire si Nordal Lelandais a tué Arthur Noyer ou non, mais s'il l'a fait volontairement. L'enjeu, c'est la peine encourue du simple double entre 15 ans et 30 ans de prison.
Marion Dubreuil qui suit donc ce procès devant la cour d'assises de Chambéry.
La vaccination à présent, plus de 18 millions de Français ont déjà reçu au moins une injection.
Et vous savez que depuis ce matin, toutes les personnes majeures qui le souhaitent sans condition peuvent s'inscrire pour recevoir une dose le lendemain en fonction des disponibilités. Environ 20 000 doses hein, chaque jour devraient être disponibles. Et dès ce matin, le système Doctolib qui recense ces rendez-vous de dernière minute a été pris d'assaut.
Oui, il faut dire qu'il y a une très forte demande dans la population. C'est d'ailleurs déjà le cas. C'était déjà d'ailleurs le cas avant la mise en place de ce service et de ce système.
Oui, de nombreuses personnes n'hésitaient pas à patienter devant les vaccinodromes en espérant être appelées en fin de journée. Et ce phénomène s'est encore amplifié ces tout derniers jours. C'est ce que vous avez constaté aujourd'hui à Douai, dans le Nord, Maximilien Carlier, à Gaillon Expo, une salle de concert transformée en vaccinodrome géant.
Oui, tout à fait. Depuis le début de l'après-midi, 7 personnes sur 10 qui entrent pour une première injection sans rendez-vous ont la trentaine. Maya, casquette vissée sur la tête, en jogging, elle est ravie.
C'est un des plus beaux jours de ma vie. Hein. J'attendais ça avec impatience. Surtout Gaillan, la dernière fois que je suis venue, c'était pour un concert. Là, c'est pour autre chose, mais je suis autant contente.
Car cette jeune femme se dit qu'avec la vaccination, elle va enfin pouvoir revoir ses amis, sa famille, sans risque, et profiter surtout.
On a envie de retrouver une vie à sortir, aller au resto, aller en boîte. Bon, les boîtes, c'est pas pour tout de suite, mais on a envie de se retrouver même en groupe, faire des soirées.
À quelques mètres de là, Théophile, 26 ans, tend son bras à l'infirmière.
C'est fait, première dose.
Il a changé d'avis sur le vaccin.
Il y a encore quelques mois, vous m'auriez posé la question, je pense que ça aurait été plus négatif. Mais là, maintenant, je pense qu'à l'heure actuelle, les jeunes vont notamment se bouger.
Plus par nécessité, selon lui, le passeport sanitaire, les voyages cet été, les festivals. Et puis, il estime qu'il est préférable d'avoir deux injections de Pfizer que des écouvillons dans le nez à chaque fois qu'il prend l'avion ou qu'il participe à un concert.
Le reportage de Maximilien Carlier à Douai pour Europe 1. Noter que le ministère de la Santé annonce que le vaccin de Moderna pourrait être utilisé en dehors des centres de vaccination par les médecins, les pharmaciens, les infirmiers à partir de la semaine du 24 mai.
Europe 1, Julien Bugier.
18h08, vous restez avec nous dans quelques secondes, la suite du journal, avec cette information qui a suscité la polémique aujourd'hui, la photo d'une femme voilée, candidate LREM pour les départementales, qui crée des remous donc au sein de la majorité, on en parlera.
Et puis en foot, on verra qu'un Français va sans doute bientôt porter un maillot espagnol.
A tout de suite. Et on vous parle de cette polémique donc du côté de l'Hérault avec cette photo, comme tant d'autres en somme, en cette période préélectorale, qui présente les candidats des prochaines départementales de La République En Marche. Sauf qu'un détail vestimentaire sur cette photo fait aujourd'hui beaucoup de bruit.
Oui, on y voit en effet l'une des candidates suppléantes porter le voile. L'affaire a immédiatement pris une tournure nationale. Jordan Bardella du Rassemblement National s'en est emparé en écrivant « C'est ça, la lutte contre le séparatisme ». Son tweet a été retweeté par Stanislas Guérini, le délégué général de La République En Marche, qui ajoute « Les valeurs portées par LREM ne sont pas compatibles avec le port ostentatoire de signes religieux sur un document de campagne électorale. »
Alors, depuis, le parti se divise. Et comment réagit-on au niveau local, Benjamin Péter ?
Eh bien, ce qui est sûr, c'est que ces candidats LREM dans ce canton populaire de la Paillade ne s'attendaient pas à provoquer une telle polémique nationale. Pour Hélène Quisgard, la titulaire, le voile de Sarah Zemahi, sa suppléante, n'est pas illégal.
C'est dans le cadre de la loi. Nous, on est restés dans le cadre de la loi uniquement. Sarah, elle est née en 1995. Elle est investie dans la vie associative locale. Elle est ingénieure qualité. Elle a été à la fac de pharmacie à Montpellier. Moi, j'ai posé la question à mes enfants, j'ai posé la question à des jeunes. Ça n'a pas posé de problème. Il n'y a pas eu de sujet. Donc pour nous, toutes les personnes qui sont sur cette affiche représente la République française.
Alors Stanislas Guérini, les menaces de retirer le logo et l'investiture LREM pour Mahfoud Ben Ali, le second titulaire, le délégué général d'En Marche est tombé dans le piège que lui a tendu le Rassemblement National.
Le Rassemblement National, on les connaît, on sait que c'est sur leur terrain, etc. Mais d'être lâché par des vrais marcheurs dès le départ, etc., ça me fait mal au corps. Guérini, on le connaît quand même. Je pense que c'est une erreur. Il a fait une bêtise pour moi. Nous, franchement, on n'a pas envie d'enlever le logo. Nous, on va continuer notre campagne. À Faudra, je n'aurai pas, bien sûr. On ne va pas demander à Sarah de s'effacer.
Ils espèrent donc que le parti changera de position. Ils ont d'ailleurs reçu le soutien de la référente En Marche de l'Hérault et députée Coralie Dubost et entendent bien poursuivre leur campagne avec la même équipe et les mêmes affiches, quoi qu'il arrive.
Benjamin Péter dans l'Hérault pour Europe 1. Il faut s'attendre à une hausse des prix des voitures. C'est le PDG de Renault qui le dit sur Europe 1. Jean-Dominique Sénard était l'invité de l'émission La France bouge en début d'après-midi. Il a reconnu que la hausse des matières premières constatée depuis plusieurs mois dans le monde entraînerait donc sans doute une hausse des prix des voitures vendues par son groupe.
Le spectre d'une nouvelle escalade entre Palestiniens et Israéliens ressurgit.
Oui, c'est l'une des plus importantes escalades de violence de ces dernières années. Le Hamas fait état de 26 morts, dont 9 enfants tués par des raids israéliens. Côté israélien, 2 femmes auraient trouvé la mort. La Chine confirme sa place de pays le plus peuplé du monde avec 1,411 milliard d'habitants, soit 72 millions de plus qu'il y a 10 ans.
En foot, un Français va très certainement porter les couleurs de l'Espagne.
Et oui, le défenseur de Manchester City, Emeric Laporte, vient en effet d'être naturalisé. On vous retrouve en direct d'Espagne. Henri de Laguérie, vous êtes notre correspondant. Rien ne l'empêche donc désormais, Henri, de jouer avec sa nouvelle patrie.
Effectivement, car l'Espagne déroule le tapis rouge pour le natif d'Agen. C'est un joueur très apprécié qu'on connaît bien ici, un talent précoce. Il a évolué pendant 8 ans au plus haut niveau avec l'Athletic Bilbao, le club qu'il a recruté alors qu'il n'avait que 15 ans. Sélectionné pourtant chez les équipes de France jeunes jusqu'en 2016, capitaine des espoirs, Laporte n'a jamais été appelé par Didier Deschamps. Une désillusion pour le joueur de City. Il parlait du sélectionneur et des Bleus avec amertume il y a 2 ans sur la télé basque, mais à l'époque, il refusait les avances de l'Espagne.
Moi, personnellement, je n'ai rien contre lui. C'est une décision qui appartient à l'entraîneur. Il ne compte pas sur moi pour des raisons personnelles, selon moi. Mais en tout cas, je choisis la France, car je suis français, et puis je n'ai pas la double nationalité.
Voilà, ça c'était il y a 2 ans, mais le Français a donc changé d'avis. À bientôt 27 ans, il ne veut pas passer à côté d'un euro et peut-être d'une Coupe du Monde l'an prochain. La Fédération espagnole a déjà lancé les procédures auprès de la FIFA. Sa sélection sera certainement officialisée le 21 mai prochain. Espérons que Didier Deschamps ne s'en morde pas les doigts.
Espérons en effet. Merci Henri de Laguérie, en direct d'Espagne, notre correspondant.
C'était le journal d'Isabelle Millet qu'on retrouve dans quelques minutes à 18h30 pour le rappel des titres. La météo avec Anissa qui nous a retrouvés dans le studio d'Europe Soir et qui nous annonce un temps agité sur la moitié ouest, même si ça se calme un peu par rapport à aujourd'hui.
Alors ça va se calmer, effectivement. Les pluies qui ont touché le sud-est et le centre-est sont en train doucement de s'évacuer vers l'Italie. Mais demain, nous avons une nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne. Donc demain matin, toutes les régions situées sur la façade atlantique auront un début de journée humide, pluvieux et venteux, avec des rafales allant jusqu'à 70 km/h sur les côtes de la Gironde. Par exemple, là, ça va souffler fort. Au bord de la Méditerranée et en Provence, ça y est, vous avez du répit. Le soleil brille demain matin, mais attention, puisque les Bouches-du-Rhône et le Gard viennent d'être placés en vigilance orange, crue et inondation. Prudence, il a beaucoup plu ces dernières heures. Du Lyonnais au Hauts-de-France, en passant par le Grand Est et la région parisienne, Demain matin, le temps sera ensoleillé. Et puis dans l'après-midi, les averses vont gagner du terrain. Il n'y a qu'en Provence, sur la Côte d'Azur, en Corse, que le temps sera ensoleillé. Partout ailleurs, entre deux éclaircies, nous aurons des petites averses qui se produisent. Et au bord de l'Atlantique, ça reste très agité avec des orages qui éclatent dans la journée. Côté température, nous aurons de la fraîcheur encore demain matin avec 2 degrés à Rodez, 4 à Clermont-Ferrand, 6 à Lyon et Limoges, 8 degrés pour Bordeaux, 9 à Biarritz et Paris et 12 degrés à Nice demain matin. Dans l'après-midi, ça reste frais, 14 à 18 degrés sur l'ensemble du pays et nous aurons 17 à 21 degrés du sud-ouest jusqu'à la Côte d'Azur. Donc au bord de la Grande Bleue, on va dépasser les 20 degrés.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour un nouveau point sur le temps.
Europe 1, Julien Bucher.
Restez avec nous dans quelques secondes. Notre invité, il est membre de l'Académie française, romancier, essayiste et il publie « Ce pays des hommes sans Dieu ». Jean-Marie Rouard sera avec nous, à tout de suite. Et ce soir, notre invité à 18h20, il est membre de l'Académie française, romancier, essayiste et publie « Ce pays des hommes sans Dieu » aux éditions Bouquin. Bonsoir Jean-Marie Rouard.
Bonsoir.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation dans Europe Soir. Alors ce livre, c'est un essai très, très personnel sur notre rapport en quelque sorte à la religion, au sacré et à l'islam aussi. La France est à la croisée des chemins, dites-vous. Et vous partagez d'abord un constat sur notre époque, c'est la montée de l'islam qui propose un modèle de civilisation et deux cultures différentes d'une autre. Vous le dites comme cela.
Oui, parce que moi je crois, peut-être un peu original, parce que personne n'en parle, qu'il y a une civilisation française. Et que il y avait une civilisation française.
Très liée à la religion.
Mais complètement liée à la religion. Enfin, c'est vraiment, elle est issue de cette religion, puisque artistiquement, on ne peut pas comprendre les œuvres d'art si on n'a pas une certaine connaissance de la religion chrétienne. Et cette civilisation qui a fait notre force est en plein déclin.
Oui.
Est en déclin, puisque d'une certaine façon, elle reposait sur trois piliers, trois murs porteurs, si vous voulez, qui étaient l'État. Or, l'État est en train de s'effriter complètement, on le voit bien. C'était, d'une certaine façon, la religion catholique, qui, depuis Vatican II, est en pleine crise. Et enfin, c'était, curieusement, la littérature. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un écrivain allemand qui s'appelle Curtius, qui disait ça en 1935, qui disait « La force de la France, ce qui relie les Français entre eux, c'est la littérature ». Or, cette littérature, vous pouvez remarquer dans les programmes de télévision, un peu partout, dans les conversations, plus personne ne s'intéresse à la littérature.
Oui, alors... le rapport au sacré aussi est très important dans ce livre, on va en parler. Et je voudrais quand même poursuivre sur le rapport de la France et de notre peuple à l'islam. La grande interrogation est donc de savoir, écrivez-vous, si la société française si fragile est-elle en mesure d'apporter un contre-projet efficace face à ce que vous qualifiez de menace de l'islam. Pourquoi, selon vous, l'islam fait-elle autant peur à nos sociétés occidentales?
Alors c'est culturel, c'est très ancien. Puisqu'il y a eu les barbaresques, parce qu'il y a eu toujours une opposition très forte du catholicisme vis-à-vis de toutes les autres religions, mais particulièrement de l'islam. Mmh. Mais, disons, les choses s'étaient un peu arrangées, parce que c'est doublé d'un intérêt formidable, parce que tous les grands connaisseurs de l'islam ont été des Français qui ont vraiment passionnément, je pense à Isabelle Eberhardt, et à beaucoup de convertis, vous savez, et encore aujourd'hui. Vous avez des gens comme Depardieu, oui, comme Barbara, qui se sont convertis à l'islam. Donc c'est double. Il y a à la fois une crainte et en même temps une attirance. Et ce qu'il y a d'ennuyeux, évidemment, ce qui a complètement, terni cette image de l'islam, c'est le terrorisme, bien sûr. Mais je crois qu'il faut le séparer complètement de l'islam. Je ne crois pas que les religions soient en soi pernicieuses, oui, et dangereuses. Je crois que c'est un bien. Et là, je partage l'avis d'Ernest Renan, qui disait, au fond, la religion, croire, c'est croire à quelque chose qui vous élève, alors, quelle que soit la religion.
Jean-Marie Roy, on pourrait vous rétorquer d'une certaine manière aussi à la lecture de cet ouvrage, qui est passionnant, remarquablement bien écrit, comme à votre habitude, que cet essai prend quand même des allures de croisade, parfois anti-islam, et contre aussi, j'ajouterais, la laïcité, principe fondateur de notre République. Vous semblez le regretter quand vous écrivez, par exemple, l'instruction des masses remit en cause les vérités que les prêtres prêchaient à des foules crédules. Il y a comme une vaste conspiration de l'époque moderne à exclure le religieux. Comment croire au miracle, à l'heure de la mécanique ondulatoire, à l'Immaculée Conception, quand on débat du genre, à la résurrection du Christ, à l'heure des transplantations cardiaques, etc., etc., etc. C'est le sens de l'histoire et c'est le sens du savoir Jean-Marie Roire.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout contre l'islam. Je trouve que c'est une religion. Bon, et puis, il faut éviter ses excès, bien entendu. Hein, et ses dérives terroristes, c'est évident. Mais moi, ce qui me, disons, ce que je crois inefficace, parce que j'ai des amis qui ne partagent pas mon point de vue, c'est le point de vue laïcard, c'est-à-dire croire que la laïcité est une religion. Disons, moi, je crois que si on est chrétien, on est laïque. Parce que c'est Jésus qui dit dans l'Évangile, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est Clovis qui choisit le christianisme oui. contre l'arianisme. Donc, depuis le départ, on est, si on est chrétien, donc, on est pour la laïcité. Mais ce que je crois inefficace contre l'islam, c'est ce grand combat laïcard en disant que finalement, le progrès, c'est l'athéisme. Et l'athéisme, je ne crois pas que ce soit un progrès. Moi, franchement, je peux très bien comprendre qu'on soit athée. Mais pour un pays, je crois qu'un pays a besoin de donner une leçon de transcendance.
Oui.
Il a besoin que les gens croient. Parce que, vous savez...
Mais le sacré peut passer par d'autres croyances.
Oui, je le dis d'ailleurs.
François Mitterrand disait que... en son temps, je crois, en les forces de l'esprit, par
voilà,
exemple.
Voilà, les forces de l'esprit. Alors là, vous êtes tout à fait dans mon camp, si je puis dire. Mitterrand, alors là, il est typiquement le contraire du laïcard.
Oui.
C'est un homme... si vous voulez, qui est agnostique.
Oui.
Et donc, tout à fait, mais je ne crois pas, d'ailleurs, au point de vue individuel. Moi, je parle du point de vue de l'État. Du point de vue de l'État, c'est pour ça que j'étais tout à fait favorable au système du concordat, qui fonctionne très très bien en Moselle et en Alsace, qui permet à la fois de reconnaître les religions
oui.
et qui interdisait le blasphème. Voilà, ben, je crois que c'est pas bien de soutenir le blasphème. Et je ne suis pas du tout d'accord avec Macron, notre président.
Vous n'êtes pas un laïcard, alors, Jean-Marie Roire.
Non, pas du tout.
La laïcité est aussi le principe fondateur de notre République. C'est l'émancipation tirée des Lumières, de la construction de l'individu, l'éducation, le savoir, la science. Ça n'est pas ce que vous croyez, ça n'est pas ce que vous pensez.
Non, mais je ne pense pas que l'athéisme, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, soit un progrès par rapport à la croyance.
Oui.
C'est-à-dire, ça vous est venu de notre influence communiste, la religion, l'opium du peuple. Moi, je ne le crois pas.
Oui.
Je crois que la spiritualité, même si, vous savez, moi, je ne suis pas un chrétien pratiquant, et je crois que ma véritable croyance, c'est l'art, c'est la littérature qui vous élève d'une certaine façon et qui a toujours des connotations. Parce que l'art, comment est né l'art? L'art est né de la croyance.
Oui. Vous êtes un pratiquant convaincu? Vous allez
à
l'église régulièrement?
Non, pas vraiment, mais... J'aime parler avec ceux qui croient.
Bien. Une question d'actualité, Jean-Marie Roire, il nous reste quelques instants, sur cette polémique qui agite la majorité, parce que ça rejoint un peu ce qu'on évoque ensemble, concernant l'affiche de campagne et les REM à Montpellier, je ne sais pas si vous l'avez vu, où la présence d'une suppléante voilée sur le tract de campagne fait débat. Est-ce que c'est un signe religieux ostentatoire sur une affiche de campagne? Est-ce que, ça n'est pas interdit par la loi, on le répète, est-ce que ça vous choque, vous?
Non, mais vous savez, j'essaie de ne pas être choqué par les démonstrations religieuses
oui.
qui ne sont pas violentes. Voilà. Moi, autant quand il y a un imam qui proclame la guerre sainte...
Quand on lit votre livre, on pense évidemment à cette question d'entrisme dont il a beaucoup été question dans le débat public et dont il sera sans doute question pendant la campagne présidentielle. Est-ce qu'une femme voilée qui veut faire de la politique et qui s'affiche comme telle dans notre République laïque, est-ce que c'est choquant? Et est-ce que c'est une forme d'entrisme pour vous?
Forcément, il y a une récupération politique. Moi, je crois que... Mais on ne pourra pas y échapper. Vous savez, le problème du voile, c'est le problème de la kippa, c'est le problème des crèches dans les municipalités. Moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Les témoignages religieux, pour moi, je vous dis, c'est le signe d'une forme d'élévation. En revanche, s'il y a des discours violents, s'il y a des récupérations de la religion... vers la violence et vers l'exclusion des autres. Alors là, je suis hostile.
Vous vous qualifiez comme un chrétien déchiré dans cet ouvrage, Jean-Marie Roire. Merci, on est contraint de s'arrêter là. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Votre livre s'appelle « Ce pays des hommes sans Dieu » aux éditions Bouquins. Merci.
Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
18h27, vous restez avec nous dans quelques secondes. Le rappel des titres et les polémiques du jour. On reviendra, tiens, sur les annonces de Jean Castex pour calmer la colère des policiers. À tout de suite. Isabelle Millet pour le rappel des titres à 18h30.
Et à la surprise générale, l'Assemblée nationale vote contre l'article clé du projet de loi de sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire qui comprend le controversé pass sanitaire. Le MoDem a lâché LREM pour protester contre le flou du texte. La vaccination, plus de 18 millions de Français ont déjà reçu au moins une injection et depuis ce matin, toutes les personnes majeures qui le souhaitent sans condition peuvent s'inscrire pour recevoir une dose le lendemain en fonction bien sûr des disponibilités. Le ministère de la Santé annonce par ailleurs que le vaccin de Moderna pourrait être utilisé en dehors des centres de vaccination par les médecins, les pharmaciens et les infirmiers à partir de la semaine du 24 mai. Hommage national cet après-midi à Avignon au policier Éric Masson, hommage présidé par Jean Castex. Le tireur présumé et son complice sont présentés à un juge en vue de leur mise en examen. Un homme toujours activement recherché dans le Gard, il a tué ce matin le patron et un employé de la Syrie dans laquelle il travaillait, il est lourdement armé. Et puis 30 ans de réclusion criminelle requis contre Nordal Lelandais accusé du meurtre du caporal Arthur Noyer. Pour l'avocate générale, la volonté de tuer ne fait aucun doute. Les jurés sont en train de délibérer.
Merci Isabelle. À tout à l'heure, 19h pour le journal. La météo, Anissa Haddadi, avec une nouvelle perturbation qui arrive demain.
Oui, après une matinée plutôt calme, Julien, sur l'ensemble du pays demain, nous avons en effet une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest cette fois-ci. Donc de la Bretagne au Pays Basque, le temps est très humide. Dans la matinée, les pluies vont s'accentuer l'après-midi avec tout le long de la façade atlantique des averses, des orages et du vent d'ouest qui va souffler jusqu'à 70 km/h. Dans les Hauts-de-France, la région parisienne, la Bourgogne, la Franche-Comté, la Provence et la Corse, et bien dans toutes ces régions, le temps reste plutôt calme, assez sec. Ailleurs, nous avons une alternance de nuages, d'éclaircies et surtout d'averses. Les températures, elles sont fraîches demain matin avec 4 à 11 degrés sur l'ensemble du pays et 12 à 20 degrés dans l'après-midi. Nous aurons 12 à Brest, 15 à Saint-Étienne, 16 degrés pour Nantes, 17 à Strasbourg et Lille, 18 pour Paris et 21, la maximale prévue pour Nice ou encore Bastia.
Merci Anissa.
À tout à l'heure
avec des bonnes nouvelles, j'espère.
Europe Soir, le 18-20, Julien Buchy.
18h33, le débat des grandes voix du mardi avec ce soir à mes côtés Émilie Zapalski, bonsoir, communicante politique, Charles Villeneuve, bonsoir Charles.
Bonsoir.
Pascal Perrineau, politologue, bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Et on va d'abord ensemble revenir, car on en parlait hier, sur la réponse de l'exécutif à la colère des policiers. Le gouvernement a donc annoncé un durcissement des peines contre les agresseurs de policiers ou de gendarmes. C'était hier soir, à l'issue de la réunion avec les syndicats. Et cet après-midi, le même Jean Castex était à Avignon pour présider la cérémonie d'hommage national à Éric Masson.
Éric Masson n'ignorait rien des exigences de son engagement. Être en première ligne, au quotidien. On ne trouve pas moins de 10 lettres de félicitations dans son dossier administratif. Non seulement il aimait sa mission, mais il considérait la police comme une seconde famille. Et pourquoi ne pas le dire tout court, comme sa famille ?
Voilà, peut-être un mot, Émilie Zapalski, sur cet hommage national. Vous l'avez regardé ?
Oui, oui, tout à fait. Et puis c'est important, des moments très importants. C'est la vie d'un homme, c'est la violence de cet acte. Donc c'est important de prendre le temps de ça.
Et ça participe aussi, mais d'une certaine manière au message politique, à dire que la nation est derrière ses policiers et les soutient.
Oui, tout à fait. Après, il y a cette intention politique aussi de faire attention à la sécurité, à l'image des policiers, à cet aspect régalien. C'est très important pour le gouvernement actuel. Et quand on a en ligne de mire 2022, c'est important de parler de régalien et d'être là. Après, c'est être là après coup, c'est proposer des solutions après coup. C'est un gouvernement qui est quand même ici depuis longtemps, au gouvernement. Oui. C'est un exécutif qui est là, c'est pas aujourd'hui qui débarque. Donc il y a des promesses pénales, il y a des promesses de recrutement qui sont difficiles à faire. Et il y a une espèce de schizophrénie aussi d'Emmanuel Macron sur la police. Il n'est pas tout clair, il parle de violence policière sur brute, de violence des policiers sur brute, pour quelques semaines après dire non, il n'y a pas de violence systémique. Et cette ambiguïté, en même temps, il ne va pas bien avec, il ne fait pas bon ménage avec le régalien.
Alors concrètement, ce qu'il a annoncé le Premier ministre, c'est que les possibilités de réduction de peine seront strictement limitées et la peine de sûreté sera portée à 30 ans pour les meurtriers de policiers en cas de perpétuité. À noter que le refus d'obtempérer sera également puni plus sévèrement. Pascal Perrineau, est-ce que l'exécutif a entendu cette fois les policiers ? On sent que les syndicats sont rassurés tout de même.
Oui, il faut l'espérer, sachant que tout de même, les policiers, il y a un phénomène de ras-le-bol dans la police française qui est évident. Ras-le-bol pour des raisons objectives. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, quand on prend l'année 2020, il y a eu 11 policiers tués. Vous vous rendez compte, ça fait presque un par mois.
Oui. Hein.
C'est tout de même pas négligeable. D'autre part, il y a des phénomènes de haine, de haine anti-flic, qui se développent en France, dans certains milieux. On le voit, pas simplement dans la jeunesse dite des quartiers difficiles, où là, les rapports avec la police ont toujours été compliqués, mais également, par exemple, dans le monde intellectuel, où la police, maintenant, est brocardée, et on appelle même à des phénomènes de révolte contre les policiers. Et ensuite, vous retrouvez ça sur les murs de France. Et donc, il est urgent pour le pouvoir du président de la République, pour le pouvoir régalien, on en parlait tout à l'heure, de réagir, parce que en plus, les Français aiment leur police, contrairement à stéréotypes qui traînent partout. Je regardais dans les enquêtes, encore récemment, 61% des Français déclarent avoir confiance ou de la sympathie pour la police dans tous les électorats, sauf l'électorat de la France insoumise.
Bien. Et la conséquence de tout ça, Charles Villeneuve, on en parlait hier soir, c'est la porosité aussi de la police, de la gendarmerie, des militaires également, aux idées du Front National. On voit que les policiers sont, non pas encore tout à fait majoritairement, mais quasiment majoritairement pour voter pour le Rassemblement National en 2022. Alors, même question, est-ce que cette réponse sur le durcissement des mesures pénales peut amener un calme relatif au sein de la police ?
Compte tenu de ce qu'incarnent les forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie et de manière complémentaire l'armée, le gouvernement n'avait pas le choix. Et d'ailleurs, ce sont les principales organisations syndicales policières qui ont dicté quasiment, je dirais, la réponse pénale à l'exécutif.
Oui. Après, mais qu'elles soient appliquées ces peines, c'est toujours le même débat.
Alors maintenant, tout à fait. Et c'est d'ailleurs le problème. Parce que dans la chaîne pénale, il y a la chaîne évidemment de la répression, l'arsenal répressif. Ça, c'est la première des réponses. Ils n'avaient pas le choix, ils ont répondu. Parce que le président de la République, vous l'avez rappelé tout à l'heure, a pris, se rend compte que s'il y a une incarnation des fonctions régaliennes, ce sont les forces de sécurité intérieure. Donc évidemment, le Premier ministre a fait les concessions qu'il fallait. Mais dans la chaîne pénale, dans la chaîne répressive, l'arsenal répressif, il y a aussi les juges et aussi des organisations syndicales, aussi bien l'USM que le syndicat de la magistrature, qui sont extrêmement puissantes. Et j'écoutais tout à l'heure les représentants de l'un et de l'autre des syndicats. Eux considèrent que de toute façon, cet alourdissement des peines existe déjà. Il est bien évident que quand on assassine ou c'est un meurtre de policier ou de gendarme, il est évidemment que vous tangentez les 30 ans.
Oui, bon. Mais ils n'ont pas complètement tort sur ce point, c'est vrai que...
Absolument, absolument. Mais moi, je pense que, si vous voulez, premièrement, il faudra les éléments constitutifs pour que les magistrats, c'est leur rôle et c'est leur travail, mais très important, c'est que la plupart des délinquants, et notamment on le voit à travers ceux qui sont présumés, les deux assassins, ou en tout cas l'assassin et son complice, d'Éric Masson, le policier d'Avignon, ils ont 19 et 20 ans. Moi, je ne pense pas que ces gens-là, quand ils ouvrent le feu, quel que soit l'uniforme qu'ils ont devant eux, ils pensent, si vous voulez, à la peine qu'ils ont
cours.
La dissuasion me paraît extrêmement relative.
Oui, c'est toujours la question de la dissuasion. Est-ce que c'est dissuasif d'alourdir les peines pour des délinquants qui voient la vie comme un jeu vidéo. 18h39, on marque une première pause. On se retrouve dans un instant avec nos débatteurs. À tout de suite. Et le débat des grandes voix suite du mardi avec toujours Charles Villeneuve, le politologue Pascal Perrineau et la communicante politique Émilie Zapalski. Alors on continue de parler de la réponse de l'exécutif après la colère des policiers. Il y a un point, moi, Émilie Zapalski, qui m'intéresse particulièrement, c'est le virage aussi d'Emmanuel Macron dans la façon d'attraper ces sujets régaliens. On se souvient qu'il y a quelques années, le candidat Emmanuel Macron critiquait la tyrannie des événements. Il l'écrivait dans un livre programme et la modification incessante de notre droit criminel. Voilà qu'il s'y convertit aujourd'hui.
Voilà, on voit qu'il n'est pas clair. Il n'est pas clair sur ces sujets. Il a évolué et il évolue parce qu'à la présidentielle 2022, et comme candidat, le duel, le fameux duel annoncé, c'est Marine Le Pen qui, sur ces sujets-là, même si Darmanin l'a dit qu'elle était un petit peu molle, elle est quand même assez ferme. Oui. Et on voit bien qu'il a du mal à avancer sur ces sujets. On voit qu'il a lancé il y a peu de temps une séquence sécurité et coup sur coup, il y a eu le procès de Viry-Châtillon avec ces jeunes qui ont essayé de brûler des policiers. Un procès qui, finalement, les peines ont été revues à la baisse. On a eu aussi Gisèle Halimi, finalement, le non-procès de cette femme qui a été jetée par la fenêtre. Ça fait des événements comme ça, coup sur coup, encore à Avignon, qui montrent un peu son incapacité, son impuissance.
est-ce qu'un président de la République est responsable de tout? Et pour prendre les deux cas d'espèce d'une décision de justice,
il est
la justice est indépendante dans notre pays.
C'est un mauvais timing. C'est un mauvais timing parce qu'on sent qu'Emmanuel Macron a du mal à dégainer cette séquence sécurité. Et quand il la dégaine, pas de chance. Ça tombe avec des événements comme ça. C'est un hasard du calendrier, évidemment.
Alors, eu égard à ce qu'on vient de dire, Pascal Perrineau, est-ce qu'à un an de la présidentielle, Emmanuel Macron pourra-t-il rattraper son retard sans se renier? Là encore, il avait promis que, lui, président, il n'y aurait pas la tyrannie des événements. Et voilà qu'après chaque fait divers, on annonce une nouvelle loi.
Eh oui. Mais
comme à l'époque de Nicolas Sarkozy, qu'il critiquait.
Si vous voulez, là, on découvre, au fond, le caractère très, très neuf qu'avait ce candidat Macron. Au fond, il connaissait assez peu le métier politique, au sens strict du terme. Et donc, il a appris en marchant. Voilà, c'est le cas de le dire. Il a appris en marchant et maintenant, en effet, il se rend compte que les sujets régaliens qu'il traitait un peu de haut, souvenons-nous, dans la campagne 2016-2017, très souvent, il avait ou bien une attitude très intellectuelle par rapport à ses enjeux régaliens, ou bien il considérait que c'était tout à fait accessoire. Maintenant, en effet, le régalien lui saute à la figure, d'autant plus qu'un des enjeux décisifs de la prochaine campagne de l'élection présidentielle, ça sera qui contrôle l'électorat de droite. L'électorat de droite, il est beaucoup, beaucoup plus important que l'électorat de gauche en France. Et il y a une course-poursuite entre l'éventuel candidat de droite, Xavier Bertrand ou un autre, et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est en train d'envoyer, parfois un peu d'ailleurs dans le désordre, toute une série de signaux à cet électorat de droite, en espérant garder ceux qui l'ont rallié, mais plutôt sur des enjeux socio-économiques, et d'attirer des électeurs de droite dont on sait que la sécurité est une préoccupation
en
importante.
En somme, si je vous résume, Pascal Perrineau, Charles Villeneuve réagit, le Rassemblement national a déjà gagné la bataille des idées.
De l'agenda des idées.
Ce sont ces thèmes qui s'imposent.
C'est des idées, moi je dirais plutôt, si vous voulez, de ces slogans.
Oui.
Parce que les idées, on peut en discuter, en parler, en débattre sur la profondeur des idées. Mais là, il est bien évident, comme l'a rappelé Pascal Perrineau.
En tout cas, ce sont les thèmes de prédilection du Rassemblement national
qui
sont imposés dans la campagne présidentielle.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais le vrai souci dans cette affaire, pour l'instant, du président de la République, c'est le premier tour. Faisons un peu de l'arithmétique. C'est le premier tour, et le premier tour, il ne veut surtout pas d'un nouvel émergent. Mmh. Surtout pas. C'est la raison pour laquelle il envoie, si vous voulez, son bulldog en chef, en quelque sorte, c'est le ministre de la Justice. Au moment où on parlait de la tyrannie des faits divers, au moment où, d'ailleurs, vous avez vu cette dame sur le marché, je ne sais plus dans quelle petite ville du Nord, où le garde des Sceaux se pointe dimanche et goûte une fraise qu'il trouve excellente et en même temps se tourne vers la dame en disant « Je suis le ministre de la Justice ». Alors, qu'est-ce que vous foutez là ? Avec finalement tout ce qui se passe, devrait être au fourneau, là. Et c'est le problème du président de la République. C'est d'avoir un sens du terrain. Et ça rejoint la remarque de Pascal Perrineau, c'est qu'il est neuf. Il est neuf sur beaucoup de points.
Là, pour le coup, Éric Dupond-Moretti, il a le sens du terrain. C'est un homme de terrain.
Emmanuel Macron, il fait peut-être une erreur. Parce qu'en effet, il s'aligne sur les thèmes du Rassemblement national, en tout cas qu'il présuppose, donc la sécurité, l'immigration viendra rapidement. Mais il fait une petite erreur, parce que Marine Le Pen, elle a un temps d'avance. Elle a déjà compris que ce qui allait se passer, c'est une séquence sociale, économique, sociale, emploi. Et elle a profité du 1er mai pour balancer un plan jeune. Donc elle a déjà un temps d'avance. Emmanuel Macron la suit avec ses thèmes habituels, ses thèmes traditionnels. Et elle dit, ben non, moi je vais aussi chercher un petit peu à gauche, je vais chercher à l'extrême gauche, je vais parler social. Et là, il n'a pas encore compris qu'il y avait aussi ces thèmes-là qui allaient s'imposer. En tout cas, il aurait la force s'il pouvait les imposer.
18h40, il a une nouvelle pause et on se retrouve dans quelques secondes. On parlera de cette polémique aussi du côté de l'Hérault qui déchire la République en marche. A tout de suite. 18h50, la suite du débat des grandes voix avec toujours Charles Villeneuve, le politologue Pascal Perrineau et la communicante politique Émilie Zapalski. Alors on en vient à cette polémique, c'est vrai, qui secoue la majorité. Une candidate suppléante aux élections départementales à Montpellier, sous l'étiquette donc LREM, qu'on voit portant un voile sur un tract de campagne. Alors attaqué par Jordan Bardella du Rassemblement National sur Twitter, le délégué général d'En Marche, Stanislas Guérini, a déclaré que le port de signes religieux ostentatoires sur un tract n'était pas compatible avec les valeurs du parti, avant d'ailleurs de finalement faire marche arrière et dire que c'était maladroit. Alors on a interrogé le candidat LREM aux élections départementales à Montpellier, qui figure aussi sur ce tract, et dont cette jeune femme est la suppléante. Voici ce qu'il nous en dit.
Elle a fait des études brillantes. Actuellement, il est en mission dans la région parisienne pour un laboratoire qui travaille pour Pfizer. Moi, je vois une vraie compétence. Je ne vois pas, moi, ce qu'elle porte.
Alors, ce n'est pas interdit par la loi d'avoir un signe ostentatoire, de porter un signe religieux sur un tract de campagne. On est là sur une question évidemment éthique et morale. Encore une politique, une polémique, Pascal Perrineau, dans laquelle s'est un peu mis tout seul La République En Marche.
Oui. Bien que ces polémiques ne soient pas nouvelles, hein, il y a plusieurs années, souvenons-nous, en 2010, du côté du NPA, du nouveau parti anticapitaliste, il y avait déjà eu, au régional de 2010, l'affaire d'une candidate voilée.
Non, mais ça, ça peut arriver. Parce que, évidemment, au départemental, Emmanuel Macron et l'exécutif n'ont pas la main sur tous les suppléants et les candidats.
Bien sûr. Bien sûr.
Mais c'est simplement que Stanislas Guérini a réagi.
Oui.
Mais, à Bardella.
Mais oui, mais
donnant
parce
le sentiment qu'il avait raison.
Parce qu'on sait que ces problèmes d'identité sont extrêmement importants. Et que cela pose, on peut se cacher derrière son petit doigt, mais cela pose les problèmes de l'intégration et des signes de l'intégration de Françaises et de Français d'origine.
D'origine. On ne va pas refaire le débat sur le
voilà,
voile, mais.
Voilà. Mais c'est
cas,
ça la question fondamentale. Oui. On sait que donc ça n'est pas une question de légalité, c'est tout à fait légal, mais c'est une question d'opportunité. Est-ce qu'un parti comme La République En Marche veut montrer au travers du port du hijab par une certaine, par une de ses candidates, même si elle est remplaçante, est-ce que La République En Marche, en effet, veut envoyer un signal que, au fond, faire nation en France, c'est cela? Ou est-ce qu'ils veulent envoyer un autre signal? Et à ce moment-là, le port d'un signe religieux, d'appartenance religieuse, n'est peut-être pas bienvenu.
Émilie Zapalski, vrai sujet éthique et polémique, ou alors on hystérise complètement le débat?
C'est un vrai sujet politique, parce que comme vous l'avez dit, juridiquement, légalement, cette personne a le droit, donc il n'y a aucune raison. C'est un sujet politique, mais ce qu'il y a, c'est que, et vous l'avez dit, il répond à Jordan Bardella. D'où il répond à Jordan Bardella? Est-ce qu'on le combat ou est-ce qu'on lui donne un piédestal, ce fameux Rassemblement National? Là, il lui donne un piédestal et il s'en est rendu compte, il s'en est excusé. Mais simplement, il réagit et il donne une décision qui n'a pas été clarifiée au sein de La République En Marche. Parce que cette colonne vertébrale de la laïcité, elle est très compliquée dans La République En Marche. Les avis sont différents. Quel est le voile de Sacha Houlier par rapport au voile de Aurore Berger? C'est pas du tout le même. Et Emmanuel Macron lui-même...
Alors, Gabriel Attal a rappelé la ligne quand même. Il dit, on ne souhaite pas présenter une candidate avec un signe ostensible religieux.
Oui, mais ils l'ont jamais dit. Ils l'ont jamais
partagé.
Souvenez-vous d'Emmanuel Macron qui, dans son discours avant le projet de loi sur la laïcité, a dit comment on ne reconnaît pas un bon ou un mauvais voile dans la rue. Qui vous dit que cette femme le porte parce qu'elle a été forcée ou qui vous dit qu'elle le porte parce que c'est un choix? Ils n'ont pas tranché ce débat parce qu'au sein de La République En Marche...
C'est une vraie question, au
demeurant. Oui, mais d'abord, il n'y a pas que cette question. Hein, la colonne vertébrale de La République En Marche, on ne la connaît pas. Le seul dénominateur commun, c'est Emmanuel Macron. Et c'est difficile d'imposer ce choix-là d'une manière un petit peu opportuniste parce que le sujet, en effet, comme vous l'avez dit, Pascal, est pas tendance, mais il est d'actualité. Et donc, il faut se battre sur ce sujet. Mais il l'impose alors que ça n'a pas été décidé en interne et qu'il n'y a pas de décision commune.
Bien, Charles Villeneuve, est-ce qu'on peut faire de la politique et porter un voile? C'est ça que la question que ça pose, finalement.
Non, vous l'avez rappelé abondamment, sur le plan de la loi, dans un espace public, on peut porter n'importe quel signe religieux. Bon,
même c'est le principe de la laïcité de 1905.
Même ostentatoire. Bon, ils se sont plantés politiquement. Hein, Pascal Perrineau l'a très bien rappelé, c'est un problème d'opportunité. Et Gabriel Attal a saisi la balle au bon, il était assez leste d'ailleurs, le porte-parole. Il a créé une jurisprudence. Une jurisprudence, on parlait tout à l'heure de justice. La jurisprudence, elle n'évolue qu'au niveau de la Cour de casse en France, de cassation.
Oui.
Mais là, il a créé une jurisprudence, c'est que finalement, La République En Marche s'aligne sur, si vous voulez, l'idée identitaire. Eh bien, l'identité des Français, c'est de ne pas porter, en matière politique, si j'ai bien compris sa déclaration, un signe ostentatoire qui fait que
on sort un tout petit peu de la ligne globale.
Oui, c'est ce qu'a dit Marlène Schiappa aussi tout à l'heure à l'Assemblée nationale, qui était interrogée sur la question.
Ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que cette jeune femme, quand même, il y a une association un peu étrange, Tabassam, proche des frères musulmans.
Ça, c'est le sujet dans le sujet.
C'est voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'ils auraient eu d'autres arguments que le voile, qui est particulièrement grossier et caricatural, pour refuser de soutenir cette personne.
Mais j'ai pas le sentiment que la majorité a soutenu cette personne. Je crois que c'est une tête de liste départementale qui, dans un quartier populaire, a pris cette suppléance.
Absolument. C'est une décision tout à fait locale qui n'est pas remontée sur le plan national. Bon, et on peut comprendre parce que c'est une élection départementale. Oui. Donc, c'est même pas régional. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une négligence encore qu'elle n'était pas. C'est l'imprévu total.
Oui, mais
on a quand même maintenant une décision nationale. C'est qu'il faut éviter.
Qui fera jurisprudence, donc au sein de la majorité
présidentielle. Oui, puis là, le zoom est fait, focus est vraiment fait avec cette communication très maladroite de répondre à un tweet du Rassemblement national.
L'association que vous avez citée est adhérente aux frères musulmans.
Oui.
Merci à tous les trois.
Il y avait des arguments.
D'avoir animé à mes côtés les grandes voix du mardi. Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
18h56, restez avec nous dans quelques secondes. Le journal, évidemment, et le débat du Club des idées. Un candidat hors système, peut-il bouleverser l'élection présidentielle? C'est le test d'un livre politique qui fait débat. On en parlera avec nos invités. À tout de suite.